Il est midi sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Aujourd'hui avec moi, Noël Glovaki. Bonjour.
Bonjour.
Alors Noël, vous travaillez à la médiathèque François Mitterrand. Vous êtes vidéothécaire, selon le terme consacré.
Oui, c'est un néologisme dérivé du mot bibliothécaire, mais au lieu de s'occuper de collections de livres, livres, bibelots, on s'occupe de vidéos, de cinéma. Et le cinéma se matérialisant aujourd'hui par des collections de DVD essentiellement. On n'a pas encore de Blu-ray. J'ai commencé, moi, il y a 20 ans avec de la VHS. Et aujourd'hui, c'est le DVD qui constitue notre support principal de prêt et de diffusion.
Alors, pour la médiathèque François Mitterrand, vous êtes responsable d'une collection cinéma, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste, en fait, votre métier ?
Et ben comme pour une bibliothécaire qui va acheter des livres pour les mettre ensuite à disposition du public, et ben moi j'achète des films. Alors tout genre de films. Là, on pense, quand on dit film, on pense évidemment en premier à la fiction, mais il n'y a pas que ça, il y a du cinéma d'animation, du cinéma documentaire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec le mélange de ces deux genres. Et pour tout public, du public adulte comme du jeune public.
Et d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, hors antenne, que c'est justement le cinéma documentaire qui a fait entrer le cinéma dans les bibliothèques.
Tout à fait. Les premières collections de films sont apparues dans les années 80, quand le cinéma a pu commencer à être à rentrer chez les gens au moyen d'un support. Donc c'était la VHS au départ. Les premières collections, donc les bibliothécaires de l'époque se sont posé la question de commencer à mettre des films dans les bibliothèques. Il y avait déjà de la musique. Il y avait des vinyles qui étaient prêtés déjà dans les années 80. Pour que ça ne soit pas... Il faut que je trouve le terme.
Aucun problème, on a tout notre temps.
Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu du cinéma documentaire pour que ce soit pas trop populaire. En fait, le cinéma n'avait pas à l'époque peut-être la reconnaissance intellectuelle qu'il a aujourd'hui. Et donc pour que ce soit mieux accepté dans les bibliothèques, qui étaient à l'époque aussi le temple de la culture avec un grand C, les premières collections de films ont été des films documentaires. Ce qui a permis aussi de donner une autre visibilité à ces films qui n'avaient pas de créneau de diffusion au cinéma. Il y a pas il y a très peu de documentaires qui sont diffusés. Il y a que la télévision qui leur offre une visibilité. Donc c'est la BPI qui a constitué les premières collections de films, de documentaires, en achetant des droits de certains films, en les mettant d'abord sur un support U-matic, puis en VHS. Le public pouvait venir à la BPI regarder ses films sur place, et puis ensuite quand la VHS est apparue, les emprunter, et puis de là voilà des collectifs de professionnels se sont montés, les premières collections sont apparues dans des bibliothèques pilotes, puis de manière généralisée. Mais à Tours, la première collection VHS s'est créée quand moi je suis arrivée à la bibliothèque, donc en 2000 on a ouvert la bibliothèque des Fontaines à Tours Sud, avec la première collection cinéma des bibliothèques de Tours, avec un fond de VHS. Des fictions, des documentaires, des films d'animation, etc.
Alors justement, le cinéma d'animation, hein, puisque c'est aussi pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que vous voulez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'on entend par cinéma d'animation ?
Alors, le cinéma d'animation, c'est une technique. C'est une technique qui regroupe elle-même plusieurs techniques. La plus connue étant le dessin animé. Alors je ne vous présente pas Walt Disney, hein, tout le monde connaît. Mais voilà, quand on parle de cinéma d'animation, en général on parle plutôt de dessin animé et on pense immédiatement à Disney, qui est le maître du ciné, de ce cinéma grand public. Et puis on pense surtout tout que du coup ça n'est destiné qu'aux enfants. Or pas du tout, il y a énormément de films qui sont faits pour des adultes et même uniquement pour des adultes que des enfants ne peuvent pas voir parce que ça leur est vraiment pas destiné. Mais ce cinéma-là on le connaît un petit peu moins, il est un peu moins populaire. Alors, bon, ça a tendance quand même à changer. Hein. Aujourd'hui, il y a des longs métrages. Ben là, en ce moment, par exemple, dernièrement, il y avait Les Hirondelles de Kaboul, dont on a beaucoup parlé, qui est un film plutôt pour des adultes. Hein. Mais c'est du dessin animé. Alors, dessin animé, c'est difficile aujourd'hui de dire que. De ne parler que de dessin animé, puisque ben, l'ordinateur est apparu et a contribué à faciliter la réalisation de films d'animation. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de films réalisés à la main de manière traditionnelle, comme ça pouvait se faire dans les années 40 avec, par exemple, le premier long métrage de Disney, Blanche-Neige, 1937, a été réalisé entièrement à la main, donc avec une technique qui s'appelle le cellulo, où on dessinait chaque mouvement de chaque personnage sur des feuilles de cellulose, donc c'est un espèce de film plastique, et en superposant ces films les uns sur les autres, ça donnait, ça animait le film, voilà, c'est ça qui créait le mouvement, quoi. Et il y a d'ailleurs des collectionneurs de cellulose aujourd'hui. Donc ça, c'est une technique qui a été progressivement abandonnée dans les années 90 pour devenir. Aujourd'hui, le cinéma d'animation est quasiment exclusivement numérique. Mais ce qui n'empêche que la base reste le dessin. C'est pas parce qu'on ne travaille sur un ordinateur qu'on ne dessine pas. Les jeunes qui se forment au cinéma d'animation aujourd'hui sont d'abord des dessinateurs, sont très doués en dessin. Simplement, ils dessinent sur une tablette graphique et ensuite, ça va être repris par l'ordinateur. Mais...
Alors, parce qu'on a aussi l'idée de 24 images secondes, mais est-ce que c'est vrai aussi pour le cinéma d'animation ? Est-ce que ça, il y a un rapport
Tout à fait. En fait, le cinéma d'animation, enfin le cinéma de toute façon, ça n'est qu'une illusion. C'est l'œil qui aligne des images fixes. Et donc ce terme de 24 images secondes, c'est effectivement quand on déroule une pellicule de cinéma. Alors pour les jeunes, c'est un peu obscur parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont vu à quoi ressemblait une pellicule. Maintenant, c'est vrai qu'on ouvre un smartphone, on a une image immédiate, on allume sa caméra, on filme des choses comme si c'était... Enfin, on filme la réalité de manière instantanée. Et cette notion de perception de l'œil et de décomposition du mouvement, elle est très compliquée, je pense, à comprendre pour tout un chacun. Mais le cinéma, l'image en mouvement, ça n'est qu'une illusion. Le cinéma n'aurait pas pu naître sans l'invention de la photographie. On a commencé par prendre des images fixes. Et puis, un jour, on s'est rendu compte qu'en faisant bouger... En mettant plusieurs images fixes les unes à la suite des autres, on décomposait le mouvement et on arrivait à créer des images animées. Le premier film, la première tentative de cinéma, ce sont des scientifiques qui ont fait ça en décomposant le mouvement d'un cheval au galop ou d'un chat en train de sauter. Ils prenaient des appareils photos. Ils alignaient des appareils photos. Ils prenaient 12 photos successives d'un cheval en train de galoper, et en mettant ces photos les unes à la suite des autres, on arrivait à faire un film. Alors, je ne sais pas si c'est très clair.
Alors, je pense qu'on peut aussi peut-être citer un jouet optique, hein, un flipbook.
Oui, il y a le flipbook, il y a eu aussi les tomatropes. Mmh. Ce principe de faire bouger des dessins et des images, effectivement, on le connaissait. Le tomatrope, je ne sais plus quand est-ce que ça a été inventé, mais ça date même d'avant l'invention de la photographie. En fait, tout ça, ce sont des combinaisons d'inventions. Et c'est vrai que même presque le cinéma d'animation est né en même temps que l'invention du cinéma. L'inventeur, c'est Émile Reynaud. Qui dès 1892 avait réussi justement à mettre des à créer des des petits dessins animés. On appelait ça les pantomimes lumineuses. Il faisait des projections dans un théâtre. Et il avait une énorme machine avec justement cette succession de dessins enroulés sur une bobine. Il faisait défiler ça et ça donnait des images en mouvement. Alors on trouve d'ailleurs ces films sur internet. Vous cherchez les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud. Il y a notamment une histoire de Pierrot et Colombine qui est très connue, qui dure quelques minutes, et c'était vraiment ce qu'il présentait. C'est dans un théâtre optique. Ça, à l'époque. Alors, d'ailleurs, la fête du cinéma d'animation, qui est un événement national dans lequel on va s'inscrire. Là, on va démarrer la semaine prochaine, mais ça a lieu maintenant sur tout le mois d'octobre, célèbre l'invention du cinéma d'animation par Émile Reynaud le 28 octobre 1892. Et je ne me trompe pas de date exacte. Je ne sais plus si c'est le 28 ou le 29. Je crois que c'est le 28.
Et alors, ce cinéma d'animation, il est aussi, bien représenté en région centre. Hein. Il me semble qu'il y a un événement à Fontevraud, en lien avec le cinéma d'animation.
Oui, alors d'ailleurs, c'est pas la région centre, c'est le Pays de la Loire. C'est juste à côté. Ouh là là.
Ouh là là, honte à moi.
Fontevraud, en fait, il s'est trouvé que l'abbaye de Fontevraud, qui est un centre culturel dorénavant célèbre, a été dirigée pendant quelques années par Xavier Kawatopor, qui a instauré dans cette abbaye tout un tas d'actions autour du cinéma d'animation, parce que lui-même, c'est sa passion. C'est un de nos grands spécialistes du cinéma d'animation en France. Il a notamment créé un festival qui s'appelait Nouvelle Image du Japon. C'est lui qui a contribué à faire connaître Miyazaki, Takahata, tous les grands auteurs du cinéma d'animation japonais. C'était le premier à les faire venir en France dans les années 90. Et donc, à faire connaître ses films. Voilà, donc, c'est pour la petite histoire. Et donc Xavier a effectivement créé une résidence d'auteur à Fontevraud. Donc ça fait quelques années que des jeunes créateurs de cinéma viennent passer un mois à l'abbaye pour travailler sur un projet de film. Et cette résidence a donné lieu à la création de rencontres professionnelles autour du cinéma d'animation. Puis, de ces rencontres est née une association qui s'appelle la Nef Animation, qui regroupe des professionnels du cinéma d'animation, donc des réalisateurs, des producteurs, etc., mais aussi quelques diffuseurs. Donc moi, j'en fais partie de manière tout à fait par hasard. En fait, Xavier m'avait sollicité au tout début des rencontres pour qu'on soit relais de l'événement en présentant des films d'animation. Donc j'avais participé à valoriser cet événement. J'y assiste depuis 8 ans que ça existe. Et nous, c'est vrai que du coup, c'est un peu ma spécialité, en tout cas à la médiathèque François Mitterrand. Il y a beaucoup de films d'animation parce que j'adore ça et parce que j'y ai été aussi sensibilisée grâce à Xavier Kawatopor, grâce à toutes les rencontres auxquelles j'ai pu participer. Ce qui fait je m'efforce d'avoir une proposition de film qui soit très variée. Si vous venez voir les collections de la médiathèque François Mitterrand, et puis mais d'ailleurs qui sont déclinées aussi ailleurs, il y a 3 médiathèques à Tours. Il y a donc François Mitterrand au nord, Les Fontaines au sud et la Bibliothèque Centrale a été la dernière médiathèque à s'équiper de collections cinéma. Mais maintenant il y a des collections qui sont bien installées et on retrouve aussi tout genre de films. Mais à François Mitterrand en particulier, il y a un fonds de court-métrage qu'on ne va pas trouver ailleurs. Le court-métrage d'animation, ça c'est vraiment une spécificité. Quand j'ai constitué le fonds de films à la médiathèque, j'insistais là-dessus, et donc il y a des petites pépites, faut pas hésiter à venir les emprunter, ça sort pas énormément, mais pourtant il y a des petits chefs-d'œuvre. Voilà.
D'ailleurs, est-ce que vous voulez peut-être en citer quelques-unes de ces pépites pour donner envie à nos auditeurs d'aller fouiller dans les fonds de...
Alors, pour ce qui est du court-métrage, déjà, je peux dire que la semaine prochaine, mercredi après-midi, il y aura une projection de court-métrage destinée plutôt au jeune public, mais qui peut être tout à fait vue par des adultes, il n'y a aucun problème. Avec 3-4 petits films utilisant des techniques différentes et ayant un contenu documentaire puisqu'on est dans le documentaire animé. Mais oui, je sais pas quel type de film. Et ben par exemple, j'ai toute une collection de films russes. de courts-métrages d'animation russe. La Russie, pendant des années, a développé des studios d'animation. Alors c'est pour produire des films qui étaient plutôt destinés à la propagande, mais de nombreux artistes se sont emparés de cet outil pour finalement faire des films qui sortaient un petit peu des choses imposées. Et il y a vraiment de très jolis films.
Première pause musicale dans la Méridienne, nous écoutons le trio Orbit, composé de Stéphane Oliva au piano, Sébastien Boisseau à la contrebasse, Tom René à la batterie, et nous écoutons le tourniquet. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tours. Nous venons d'écouter le trio Orbite, Stéphane Oliva au piano, Sébastien Boisseau à la contrebasse, Tom René à la batterie et nous écoutions le tourniquet. Je vous renvoie à leur nouvel album Orbite qui est sorti chez le label Yolk Music, le label nantais indépendant. Alors Noël Glovaki, vous nous annonciez avant cette pause musicale une séance jeune public, n'est-ce pas, de documentaire d'animation. Est-ce que vous voulez repréciser la date et l'heure ?
Alors ce sera donc mercredi 30 octobre à 15h à la médiathèque François Mitterrand.
Voilà, je vois que vous êtes venu avec des DVD, vous nous avez apporté des films, est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est ?
Oui, alors en fait j'ai apporté donc les DVD qui vont être projetés dans le cadre de ce cycle consacré aux documentaires animés. Donc l'introduction, ce sera la semaine prochaine à l'occasion de la fête du cinéma d'animation dont je parlais tout à l'heure. On va passer donc un long métrage, Funan. Le réalisateur Denis Do sera présent. Alors Funan, c'est pas un documentaire, c'est une fiction. C'est un film d'animation intégrale, il n'y a pas d'image documentaire dedans, mais le contenu est documentaire puisque c'est autobiographique, il s'agit de l'histoire de la mère du réalisateur. C'est un film qui s'inscrit dans la lignée de tout un tas d'autres. On parlait des hirondelles de Kaboul tout à l'heure. Les hirondelles de Kaboul, alors l'histoire est inventée, mais le fond... le fond de cette histoire est aussi documentaire. Ça s'inscrit dans un conflit qui est bien réel. Pour Funan, donc la mère de Denis Do, donc est cambodgienne et a été une des nombreuses victimes du régime des Khmers rouges. Donc en 75, elle s'est trouvée comme tous ses compatriotes enrôlée dans cette machine de guerre, de contraintes, l'instauration d'un régime extrêmement difficile où les gens étaient forcés de travailler pour le régime, installés dans des camps, les familles étaient séparées. Et là, justement, donc le père et la mère de Denis Do. Alors, je suis en train de... Je ne suis pas très sûre pour le père. Parce que je crois que... je crois que c'est pas son père, justement, qui est dans le film. C'est le premier mari de sa mère. Mais ça, il faudra que je lui demande quand je le verrai, justement, qu'il nous reprécise les liens familiaux de tous les personnages. Sa mère, j'en suis sûre. Donc, le couple du film perd leur petit garçon qui est emmené dans un autre camp. Et donc pendant tout le film, ils vont essayer de le retrouver, multiplier les efforts, les ruses pour essayer de réunir à nouveau leur famille.
C'est un film tout public ? Tout le monde peut venir voir ce film ?
Alors, c'est quand même un petit peu difficile pour les trop jeunes enfants. Même s'il n'y a pas de scène de guerre représentée de façon violente, comme on aurait pu en voir justement dans le cinéma de fiction, cette histoire-là aurait très bien pu être aussi un film de fiction avec des reconstitutions de batailles épiques à la Steven Spielberg. Non, c'était pas du tout... c'était évidemment pas l'objet. Justement, je trouve que le cinéma d'animation permet une certaine intimité avec les personnages et une représentation tout en douceur de choses extrêmement tragiques. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, la violence n'est pas masquée, mais elle n'est pas non plus démonstrative. Et c'est ça que je trouve assez merveilleux dans ce film. En plus, l'image est très belle, le graphisme est très beau. Ça reste difficile, il y a beaucoup d'émotions, mais ça n'est pas pour autant traumatisant. Maintenant, voilà, c'est un sujet qui reste politique, historique, qu'il faut pouvoir expliquer à des trop jeunes enfants qui n'auraient pas cette histoire en tête.
Voilà ce qu'on voit par exemple sur la pochette du DVD, hein, qui a plusieurs images dans des tons orangés.
Oui, c'est un peu la couleur dominante, l'orange et le vert, puisqu'on est aussi dans une nature luxuriante, mais qui est abîmée par cette violence. C'est presque plus le rouge sang, c'est l'orangé, mais c'est aussi le... Ouais, le...
Voilà, et on voit que c'est un film qui a reçu le cristal du long métrage à Annecy en 2018.
Oui, le festival d'Annecy étant le grand festival du film d'animation national, enfin international d'ailleurs, hein, ça vraiment, il y a tous les pays qui concourent dans ce festival, ça existe depuis un moment maintenant, mais je crois que ça a au moins une trentaine d'années, Annecy.
Donc au lieu aussi du...
Ouais, du cinéma d'animation, ça j'y suis allée une seule fois, j'ai eu cette chance-là, mais c'est vrai que c'est un super festival. Mais plus près de nous, oui, je reparlais de Fontevraud tout à l'heure, donc il y a ces fameuses rencontres professionnelles qui ont lieu tous les ans, moi, me donnent l'occasion de rencontrer des cinéastes, et souvent même avant que leur film soit fait. J'ai pu assister comme ça à plusieurs présentations de films en étape de travail, donc des cinéastes parfois très connus, hein, comme Michel Oslo, Jean-François Laguioni, dont on parle en ce moment parce qu'il y a quelques-uns de ses courts-métrages qui ressortent au cinéma, voilà, qui viennent présenter des films à Fontevraud, et on a l'impression d'être vraiment privilégié parce que c'est un petit comité de professionnels. Et face à d'immenses stars. Et Denis Do, justement, il était à Fontevraud l'an dernier pour présenter son film qui était là pour le coup quasiment terminé. Il allait être présenté à Annecy, justement. Voilà, et donc ça a été... Enfin voilà, je me suis dit que celui-là, il fallait que je le présente. Et puis il y en a un autre également, donc Samouni Road, La route des Samouni. Alors celui-là, par contre, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on m'en parle. À Fontevraud, j'avais rencontré l'une de ses productrices qui travaille pour une société qui s'appelle Alter Ego Productions. Alter Ego, c'est une société basée à Orléans. On ne sait pas forcément, mais dans nos régions, on a des sociétés de production qui travaillent pour le cinéma et qui permettent de sortir des films qui ensuite ont une portée internationale. Donc Samouni Road, c'est un Italien qui l'a réalisé, Stefano Savona. Le cinéma, l'économie du cinéma étant ce qu'elle est, et en particulier sur des films un petit peu, au sujet un petit peu difficile, là ça parle de la Palestine, c'est un film documentaire utilisant du cinéma d'animation. Je vais vous expliquer après dans quelle mesure ça fait appel au cinéma d'animation. Ce film-là, pour trouver des financements, la productrice italienne a été en chercher également en France. Donc elle a rencontré les personnes d'Alter Ego Productions qui eux-mêmes se sont adressés ensuite à tous les dispositifs de soutien au cinéma français, donc le CNC, mais également en région cyclique. L'agence régionale du centre pour le cinéma, mais également aujourd'hui le livre. Voilà, donc Cyclic, c'est une institution culturelle en région centre, dont une des nombreuses missions est de soutenir la création cinématographique. Voilà, et donc ce film a reçu un soutien de Cyclic et de tout un tas d'autres... producteur, du coup on a pu suivre, nous, en région centre, sa réalisation, et donc aujourd'hui on a mis en place, donc avec Cyclic, pour le mois du film documentaire, une exposition et la projection du film en présence du réalisateur Stefano Savona. Donc ça sera le 15 novembre.
Donc là, on peut vous rappeler aussi, hein, vous l'avez déjà dit, mais que ça alterne des images réelles filmées par Stefano Savona et puis des images dessinées.
Voilà, tout à fait. Alors le propos du film, donc, c'est de raconter l'histoire d'une famille, la famille Samouni, qui vit en Palestine et dont certains membres ont été tués par l'armée israélienne. Alors j'ai pas la date exacte de l'événement, mais ça a peu d'importance, il faut venir voir le film pour le savoir, justement. Et donc cette famille, il l'avait rencontrée, Stefano Savona les a rencontrés en 2009, a eu envie de raconter leur histoire, mais il ne savait pas comment faire, justement, pour parler des disparus. Et donc il s'est interrogé d'abord en se disant bah, peut-être en utilisant de la fiction, c'est-à-dire en faisant jouer leur rôle par des acteurs, mais ça lui semblait pas correct par rapport à l'histoire qui avait été vécue. Et donc pourquoi pas le cinéma d'animation ? Lui et sa productrice ont eu cette idée-là. Ils ont rencontré donc un artiste italien qui s'appelle Simone Massi, un auteur de cinéma d'animation qui a fait surtout des courts-métrages et qui a un graphisme très original, exclusivement noir et blanc. Il dessine, donc c'est un trait au crayon noir très fin, très, très fluide. Ça donne c'est difficile d'en parler à la radio parce que évidemment sans avoir le visuel, je vous invite à aller voir, on trouve certains de ses courts-métrages sur internet. Simone Massi, voilà, c'est pour justement faire découvrir tout ce travail. On proposera donc l'exposition avec des dessins originaux qui ont servi à la réalisation du film et puis une explication justement de la technique utilisée. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc pour son dessin a été utilisé pour représenter les moments disparus de la famille Samouni. Donc justement la vie avant et puis les attaques de l'armée israélienne en elle-même.
Voilà, donc ça promet d'être un autre moment d'échange très intéressant avec le réalisateur puisque
oui, il sera là, oui.
Les personnes aussi, les spectateurs pourront poser.
Tout à fait, poser leurs questions. Oui. C'est tout l'intérêt de faire venir l'auteur, c'est que plutôt que moi je sois là à en parler et puis parfois que je dise des bêtises, c'est toujours mieux quand l'auteur est là. Donc oui, on a vraiment de la chance cette année avec deux rencontres exceptionnelles. Donc Denis Do et Funan, ce sera la semaine prochaine, mardi soir, 29 octobre à 20h. Et Stefano Savona et Samouni Rhodes, ce sera le 15 novembre, donc c'est un vendredi soir à 20h également à la médiathèque. Et je précise que toutes ces rencontres sont gratuites.
Une nouvelle pause musicale dans la Méridienne et nous allons écouter le duo Hoop. Sébastien Mitterrand au corps, Élie Garcia à la guitare et nous écoutons Goof Square. Thank you. Woof Square de Stony Rollins. Dans la Méridienne, c'était le duo Hoop, Sébastien Mitterrand au corps, Ellie Garcia à la guitare. Noël Glovaki. Là, on a quand même deux drames familiaux. Comment ça, c'est un hasard
oui.
ou c'est...
Alors, parce, oui et non. Voilà. C'est un hasard. C'est-à-dire que il se trouve que beaucoup de documentaires animés appartiennent à ce genre autobiographique, enfin biographique, autobiographique, familial. Je pense notamment à Persepolis, donc le récit de Marjane Satrapi, qui est son histoire à elle, qu'elle a d'abord mis en bande dessinée, puis ensuite en dessin animé. Il y a eu également Valse avec Bachir, c'est pareil, Harry Folman, le réalisateur, a raconté son histoire en la mettant en image animée. Et il y a beaucoup de films comme ça qui ont un contenu biographique et surtout historique. Parmi les autres films que je programme pour ce mois du film documentaire consacré au documentaire animé, il y a La Montagne Magique. Donc là, c'est l'histoire d'un personnage qui a existé. Alors, c'est un aventurier qui a beaucoup bourlingué. Il est roumain. Il a beaucoup bourlingué à travers le monde, et en particulier en Afghanistan. Il a combattu aux côtés du commandant Massoud. Anca Damian, la réalisatrice, donc qui est roumaine, a raconté son histoire uniquement en animation. Alors, Anca Damian, c'est un peu sa spécialité, le documentaire animé. Son précédent film, Le Voyage de Monsieur Krulik, raconte également une histoire biographique réelle, mais uniquement en animation. Alors, elle a une technique elle de très particulière. Elle monte des images d'archives, elle redessine, elle travaille beaucoup par collage de photos. C'est assez singulier comme travail. C'est une jeune femme qui n'a pas eu au départ de formation en cinéma d'animation, tout simplement parce qu'en Roumanie, il n'y a pas d'école de cinéma d'animation. Donc elle s'est formée aux Beaux-Arts. Et puis ensuite, elle s'est intéressée à ce cinéma. Elle a travaillé avec des spécialistes, dont Théodore Huchef en particulier, qui est un autre cinéaste que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc il a aidé sur la Montagne Magique. Voilà, ça donne un très très beau film aussi. Le visuel est particulièrement riche.
Voilà, donc en plus, vous avez choisi des films avec des esthétiques complètement différentes.
Exprès.
Ouais.
Exprès. Après, dans le documentaire animé, je disais qu'il y a souvent des films historiques, tout simplement parce que l'animation, justement, est un outil pratique pour reconstituer des images disparues. Quand on ne peut pas représenter des choses qui ont existé parce qu'on n'en a pas de traces, soit on fait de la fiction, soit on peut effectivement la dessiner. Et d'où souvent ces sujets un petit peu, peut-être un petit peu, qui ont l'air comme ça un petit peu tragiques, un peu difficiles, mais le cinéma est aussi là pour nous aider à réfléchir, donc... Voilà, après, il n'y a pas que ça. Hein. Même dans l'histoire aussi, il n'y a pas que des événements tragiques. Il y a un autre film que j'aime beaucoup, alors que là, pour le coup, ça aurait été trop long de le diffuser. C'est une série documentaire qui s'appelle Les Aventuriers de l'Art Moderne. Une série qui a été coproduite par Arte et qui raconte l'histoire des pionniers de l'art moderne, donc à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et pour le raconter, justement, c'est tout en animation. Et c'est superbe. Mais ça dure trop longtemps pour qu'on puisse le présenter en séance.
Une programmation spéciale, alors peut-être au cinéma studio.
Peut-être, mais sinon après, voilà, quand nous projetons des films, ce sont des films qui sont issus de nos collections. Mais il faut savoir qu'on peut retrouver tout un tas d'autres films... à emprunter ensuite sur DVD dans nos collections. C'est toujours l'occasion, quand moi je propose une sélection, que je mets en valeur un genre comme ça, comme le documentaire animé, c'est justement pour dire au public, venez dans nos bibliothèques, vous pouvez y trouver des choses que vous n'aurez pas forcément l'occasion de trouver ailleurs aussi, parce que bon, le cinéma, ça a l'air super accessible aujourd'hui avec les plateformes, les internet, etc. Mais pas tout le cinéma. Il y a aussi des films qu'on ne trouve pas, et puis nous sommes des médiateurs de la culture. On est là pour présenter des choses que les gens vers lesquelles les gens n'iraient pas forcément, parce que ben, spontanément, ils méconnaissent l'existence de ces films, soit parce que a priori ils se disent que ça les intéresse pas. Or voilà, quand on creuse un peu, ben c'est vraiment passionnant. Je parlais de variété du cinéma tout à l'heure, c'est un... Le cinéma est extrêmement riche. Il n'y a pas que les Marvel et les Disney dans la vie.
Ah oui, mais ça, c'est tout l'enjeu aussi de votre...
Ni Harry Potter, etc.
C'est tout l'enjeu de votre métier et de votre
de
travail.
De notre métier, tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'avec la disparition des supports physiques, on se pose la question justement de cette médiation. Est-ce que les gens vont continuer à venir dans nos bibliothèques pour emprunter des films ? Alors, si au moins ils peuvent venir pour les voir, c'est déjà bien. C'est pour ça que c'est important pour nous de continuer à organiser des projections, des animations, des événements pour fédérer un petit peu et puis signaler voilà, que ces choses existent et qu'on peut les retrouver, quoi. On peut les voir quelque part. Et la rencontre avec le réalisateur, c'est important aussi parce que ben l'art a besoin de cet échange.
Alors comment on fait quand on est quand on travaille en médiathèque, qu'on a envie d'intéresser son public à des choses un peu plus rares? Comment vous faites pour que les gens se sentent pas agressés ou méprisés parce que là on dit pour rire les Marvel, il y a pas que ça, mais si les gens adorent ça et ne regardent que ça.
Mais j'adore les Marvel. Alors moi je les connais tous par cœur en plus, hein, je suis incollable là-dessus. Donc justement déjà moi mon parti pris c'est celui-là, c'est-à-dire que je ne méprise absolument pas le cinéma populaire, au contraire, je suis tout à fait enthousiaste, mais je pense qu'il faut que les choses coexistent. Et que c'est pas parce que certaines choses ont plus de visibilité que le reste n'existe pas. Et donc voilà, moi mon postulat, c'est de donner de la visibilité à ce qui est moins connu. Mais on peut aussi emprunter tous les Marvel dans les bibliothèques.
Voilà, mais comment on fait en fait pour que les... Parce que ça doit arriver que des gens vous disent « Oh là là, c'est pas pour moi, c'est compliqué ». Comment vous...
Je suis pas persuadée qu'il y ait une recette miracle. Moi, j'essaie de faire partager ma passion. C'est-à-dire que quand des films me plaisent, j'en parle. C'est dans l'échange aussi quotidien qu'on a avec le public. Parce que là, je suis à la radio, mais quand on est ouvert au public, je suis face aux personnes qui viennent emprunter des DVD. Et à cette occasion, je peux aussi présenter mon programme. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va emprunter tel film, ça va me donner l'occasion de rebondir en lui disant « Ah, bah tenez, là, il y a ça aussi. » Voilà, c'est des choses comme ça.
Il y a une idée aussi de confiance, peut-être. Si les gens viennent, ils vous connaissent après, ils savent que vous travaillez ici.
Alors oui, c'est vrai que ça peut marcher. Je sais que, par exemple, pour les projections que j'organise à la médiathèque, il y a des gens qui sont venus une première fois et qui reviennent parce qu'ils savent que ce que je vais proposer peut a priori les intéresser. Je suis très fière d'ailleurs que quand on me dit ça, parce que ça me fait bien plaisir de savoir que mes propositions peuvent toucher. Bon, après, c'est une minorité de personnes, mais voilà, c'est... C'est vrai que, bon, de toute façon, c'est comme tout. On ne peut pas forcer les gens à être curieux. Pour ceux qui le sont, si on arrive à leur faire des propositions et à les toucher, surtout à les informer, parce que notre gros problème, c'est plutôt l'information. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir nous voir après. « Ah, mais je ne savais pas que vous aviez passé ça. C'est dommage, si j'avais su, je serais venue. » Voilà, bon, donc, c'est plutôt ça qui nous pose un problème. C'est comment bien informer et, voilà, et faire venir... Faire venir un public a priori qui est intéressé, quoi. Oui.
Mais il y a peut-être aussi l'idée, comment dire, de la sincérité et de la passion, parce que vous, ces films-là, vous les aimez vraiment.
Oui.
Et donc l'idée, c'est pas de dire, oh tiens, mais qu'est-ce que je vais choisir pour ces gens qui n'y connaissent rien. C'est vraiment,
ah non,
je partage.
Alors moi, c'est vraiment pas ma démarche.
Voilà.
Mais ça risque pas, ça.
C'est peut-être pour ça aussi que les
D'ailleurs,
gens.
D'ailleurs, je ne pourrais, enfin, j'aurais beaucoup de mal à présenter des films que je n'aime pas.
Alors c'est peut-être comme ça aussi qu'on arrive à intéresser les gens, c'est parce qu'on est sincère dans ce qu'on propose.
Oui. Non, mais c'est sûr que, bon, je parlais de cinéma d'animation, enfin de Fontevraud, etc. Si j'étais pas passionnée par ce cinéma, je ne serais jamais allée sur ces rencontres et je ne pousserais pas la petite bête pour essayer de voir un maximum de films et de les reproposer ensuite. Après, c'est pas mes seules marottes, hein. Voilà, il y a plein d'autres genres de cinéma que j'aime, d'autres films que j'aime. Et puis j'achète aussi des films que j'aime pas forcément, hein, pour la médiathèque, puisque notre projet, c'est quand même d'être éclectique. Mais après, je pense qu'il y a un cinéma d'auteur qui est accessible, vraiment accessible à tout le monde, et que les gens méconnaissent. Et c'est pas du mépris quand je dis méconnaître. C'est vraiment parce que tout simplement les propositions, les occasions de voir ces films ne sont pas suffisamment nombreuses. Et que nous, en médiathèque, on a cette chance d'être un lieu de ressources où on peut justement venir voir et apprendre et voilà.
Et puis on peut dire aussi aux gens, mais vous avez le droit de dire que vous n'avez pas aimé, que vous avez trouvé ça pas intéressant.
Ah bah évidemment, oui. Oui, oui. Oh oui, bah souvent dans l'échange avec le public, il y a parfois des gens qui me disent que ça ne leur a pas forcément plu, hein, ça peut arriver.
Voilà, mais peut-être que c'est intéressant aussi de dire aux gens, mais on fait confiance à votre jugement. Vous avez le droit de dire que...
Ouais, que ça, c'est pas...
Ouais, c'est pas grave.
Non, c'est sûr.
Nous allons écouter à nouveau le trio Orbit, Stéphane Oliva, Sébastien Boisseau et Tom René. Nous allons écouter Polar Blanc, vous écoutez La Méridienne. Nous parlons documentaire d'animation avec Noël Glovaki. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Renard Blanc dans la Méridienne. Nous écoutions le trio Orbit, Stéphane Oliva, Sébastien Boisseau et Tom René. Album éponyme sorti chez Yolk Record, le label nantais. Nous parlons documentaire d'animation avec Noël Glovaki.
Alors je vois qu'ils avaient amené un quatrième DVD.
Oui.
C'est quoi celui-ci ?
Alors, Conversation animée avec Noam Chomsky, un film de Michel Gondry.
Ah.
Alors, Gondry, c'est un cinéaste connu quand même. Voilà, il y a plein. Enfin, normalement, après, je ne me rends pas compte s'il est.
Bah, faisons comme s'il ne l'était pas, parce qu'après tout, peut-être qu'il y a des auditeurs, puisqu'on parle justement.
Ouais, qu'est-ce aussi on pourrait citer comme film de Michel Gondry. Moi, mon préféré, c'est Soyez sympa, rembobiné. Par exemple, voilà, mais il y a aussi, il a fait L'écume des jours, Microbe et Gasoil, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et puis c'est surtout un réalisateur de clips, il a fait beaucoup de clips pour Björk notamment, voilà, enfin c'est un peu un monsieur touche-à-tout en matière de cinéma, il est français, mais il vit aux États-Unis, la plupart du temps, je crois. Peut-être de temps en temps un peu en France, mais je crois surtout aux États-Unis, parce qu'il y a trouvé un terreau artistique. Il a fait pas mal de ses films là-bas. Mais là, celui-ci est très singulier dans son parcours, parce que c'est quasiment un film homemade. Fait maison, il a une fascination pour Noam Chomsky, qui est un grand penseur, un linguiste célèbre, mais qui a une pensée quand même assez compliquée. Hein. Lire du Chomsky dans le texte, c'est pas facile. C'est ce que s'est dit Gondry d'ailleurs, hein, qu'il aimerait bien faire connaître sa pensée, mais comment faire pour que ce soit justement accessible au grand public. Et donc il a été le rencontrer, il a filmé tout un tas d'entretiens un peu dans l'urgence, parce qu'il avait peur que cet homme qui est assez âgé ne disparaisse. Et donc il s'est dit, voilà, faut que j'aille le filmer. Et pour éclairer son discours, il a décidé de le mettre en image d'animation. Alors quand je dis homemade, c'est qu'il s'est installé dans sa maison, dans son salon. Il a installé donc ce qu'on appelle un banc-titre, c'est une table lumineuse avec un appareil photo au-dessus. Il dessine. Au feutre, il fait son petit film d'animation dans son salon, et donc ces images animées illustrent la pensée de Chomsky. Donc ça donne vraiment un film très singulier. Moi j'aime beaucoup, mais dans les critiques que j'ai vues, certains ont trouvé qu'il se mettait trop en avant. Enfin voilà, donc il faut vraiment le voir, hein, pour se rendre compte par soi-même.
Pour en dire du mal peut-être.
Voilà, ou éventuellement dire du mal, mais c'est comme tout personnage un peu célèbre, Gondry a ses fans et ses détracteurs. Voilà.
Et alors celui-là, il sera projeté, pardon ?
Il sera projeté le 30 novembre. C'est notre dernier. En fait, on va avoir un film tous les vendredis à partir du 15 novembre. On ouvre avec Samouni Road. Et puis ensuite, donc La Montagne Magique le vendredi suivant. Ça doit être le 23 novembre. Et je vérifie mes dates. 22 novembre, pardon. Et Conversation animée avec Noam Chomsky, 29 novembre. Et 30, mais c'est... Voilà.
Voilà, eh bien merci. Je pense qu'on peut retrouver Noël Glovaki. On peut retrouver toutes ces dates sûrement sur le site de la bibliothèque municipale.
Tout à fait. Sur le site de la bibliothèque, bm-tour.fr. Et on peut trouver aussi, si on va dans le Zoom de la bibliothèque, tout un article que j'ai fait sur le documentaire animé pour justement découvrir d'autres pistes. Il y a une sélection de films. Il y a l'histoire de ce genre. Et justement, une interrogation, peut-on dire que c'est un genre ? Le documentaire en est un, le cinéma d'animation est plutôt une technique. Mais voilà, il y a donc dans l'historique, en fait, on se rend compte que dès l'invention du cinéma d'animation, il y a eu des films à visée pédagogique réalisés avec les techniques du cinéma d'animation.
Voilà, donc on rappelle hein, aussi donc, sur le site de la bibliothèque de Tours. Voilà, on trouve des articles. Donc là, pour le coup, vous aviez fait un dossier sur le documentaire animé, virgule, un nouveau genre, point d'interrogation. Et c'est vraiment des fiches pratiques avec des extraits de films, des notions... comment dire, on va pas dire biographique parce que le film...
Historique,
merci. Voilà, donc on retrouve toutes ces informations. Et ça fait aussi donc partie de vos missions de médiathécaire, de transmettre la culture par ces supports-là.
Justement, on parlait de médiation tout à l'heure, comment donner l'envie. Ben, ça, c'est un outil qu'effectivement j'utilise volontiers. Moi, je suis très écrit, j'aime bien écrire. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Donc bon, y a des pages thématiques comme ça sur notre site internet à peu près tous les 2-3 mois. Là, en ce moment, c'est le documentaire animé. Ensuite, on passera à une autre thématique. Je sais déjà, la prochaine, ça sera en janvier, février, mars. On parlera du nouvel Hollywood, puisque nous aurons un cycle avec la Cinémathèque de Tours. Voilà.
Voilà, eh bien merci beaucoup Noël Glovaki pour toutes ces informations sur le documentaire animé.
Merci à vous.